Revue de presse de l'April pour la semaine 50 de l'année 2013. Bonjour Manu.
Salut Luc.
Salut Lionel. Eh bien Lionel, tu es un nouveau dans la revue de presse. Il est probable qu'on ne te revoie pas avant un bon bout de temps. Tu es notre vénéré président. Merci d'être pour cette revue de presse avec nous. Donc Manu, parle-nous un peu du sommaire.
Alors, rapide sommaire, comme d'habitude, on va vous parler de Munich, l'État et une lettre ouverte qui nous parle de lui et de l'Amérique, la vente liée, l'état des lieux des compétences du libre, le Bitcoin, la vente liée encore, mais cette fois-ci avec une petite notion sur la PLM, avec des petites discussions sur la loi militaire, et finalement de l'architecture open source. Donc un concept un peu nouveau.
Journal du net, open source, Munich achève sa migration vers Linux. Un article de Dominique Philippon.
Alors c'est pas la première fois qu'on parle de Munich, mais c'est toujours intéressant. Et là, il y a des nouvelles qui apparaissent.
Ben ça y est, ils ont fini tout leur processus de migration vers le logiciel libre, à la fois le logiciel de type bureautique, mais également le système d'exploitation. Et c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on en parle, ça fait partie des cas exemplaires.
Effectivement, parce que eux, ils voulaient se débarrasser du propriétaire qui leur coûte cher et qui les entrave dans leurs évolutions. Et bah, là, ils ont 15 000 postes qui sont passés en libre, en full libre.
Oui, l'article précise quand même que leur premier objectif, c'était d'être indépendant, autonome, avant même celle de la question du coût qui est souvent mis en avant. Et donc ça, c'est pas mal. Et ça montre, bah, quand on veut, on peut. Donc par contre, l'article précise que le projet n'a pas été facile. Hein. Ils ont pris du retard sur le calendrier qu'ils avaient eu initialement. Donc ça montre que c'est un vrai boulot, que c'est pas facile, mais qu'on peut et que bah, le jeu en vaut la chandelle.
Donc il resterait quelques postes sous Windows, a priori des décideurs pressés qui ne veulent pas avoir à se poser de questions, on pourrait imaginer. Par ailleurs, la ville propose à ses administrés de passer au logiciel libre et met en avant les avantages en termes de sécurité, fiabilité qui sont assez sympathiques. Donc c'est toujours un projet qui est intéressant à suivre, et surtout on espère que d'autres municipalités vont s'y mettre, il y a plein de gains de plein de manières différentes à obtenir.
Mediapart, l'État doit cesser de livrer ses systèmes informatiques aux intérêts américains. Un article, mais de qui donc, Lionel Allorge ?
Et oui, donc il s'agit d'un article qui reprend une lettre ouverte que nous venons d'adresser au président de la République, François Hollande, de manière à l'intéresser à la problématique donc qui est issue du scandale Prism, dont beaucoup de vos auditeurs, j'imagine, ont entendu parler, c'est-à-dire le fait que la NSA, qui est l'agence de surveillance électronique américaine, a mis en place un programme massif d'espionnage des correspondances des particuliers et des entreprises de manière générale.
Et quel rapport avec le logiciel libre ?
Alors le rapport, il est direct, c'est que pour pouvoir se protéger de ce genre de manipulation, il faut être maître de son informatique. Et pour être maître de son informatique, une des briques fondamentales, c'est de pouvoir utiliser des logiciels libres et, si possible, de n'utiliser que des logiciels libres.
Effectivement, parce que les Américains, ils sont contents de nous vendre et de nous fournir du logiciel privateur à foison, mais c'est du logiciel boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, si ce n'est de temps en temps des petites informations, genre Windows posséderait une clé qui s'appelle NSA quelque chose, ça fait toujours plaisir. Donc on est vraiment à leur merci, ils nous fournissent tous nos outils, on ne contrôle rien.
Donc Mediapart revient également sur l'accord Open Bar, hein, donc il relance cette affaire dont on a parlé quelques temps et dont l'April s'est saisi il y a un petit moment. Et donc il relance ça, on espère que ça va faire des petits et que ça va faire du bruit. Donc en tout cas, on vous invite à prendre connaissance de cette lettre ouverte. Si François Hollande peut la comprendre, vous devez pouvoir la comprendre également. Et c'est le président de tous les Français. Et donc vous pouvez le voir sur le site de Mediapart ou sur notre site internet. PC Impact, vente liée PCOS, envoler les promesses de François Hollande, un article de Marc Reiss. Donc on reparle de François Hollande. Incroyable.
Et oui, mais pas de manière très positive parce qu'il avait fait des promesses, c'était dans sa campagne, des choses qu'on avait appréciées, mais il semblerait que ses promesses se sont envolées.
La vente liée, c'est ce truc où on va dans une grande enseigne, on veut acheter un ordinateur et on a nécessairement le système d'exploitation qui vient avec, plus d'autres logiciels, et on ne sait pas combien on paye.
Donc, et en plus, ce sont des logiciels privateurs. Donc, effectivement, sur la facture, quand on achète, il y a souvent 100 euros, 150 euros qui sont en plus, hein, qui sont intégrés.
Enfin,
on ne peut pas l'éviter. On suppose parce qu'il y a eu des jugements qui ont souvent remboursé ce genre de somme. Et ce sont souvent des Windows avec plein d'autres logiciels. Parfois, des petits Troyens qui viennent vous espionner, c'est en sus, hein, c'est gratuit. Et donc, tout ça, il faut éventuellement en activer quelques-uns. Mais on n'a pas le choix. C'est là de base. Ça nous espionne, ça nous surveille. On est assez bloqué et les institutions n'évoluent pas.
Et ça fait des années qu'on se bat contre ça, l'AFUL également, qui est très active sur ce dossier-là, et que ça n'avance pas. Mais on a une super collection de grandes déclarations de politique en disant qu'il fallait que ça change, etc. Mais jamais rien n'est fait. Et Hollande avait fait vraiment des promesse là-dessus. Et bah, c'est marche arrière toute en disant les gens n'ont pas besoin de savoir. Ça leur est totalement inutile de connaître le détail, le prix, etc. Le système d'exploitation, ça vient avec l'ordinateur. Donc, il n'y a pas matière à les informer.
Alors, c'est dommage.
Même, juste les informer. On ne parle même pas d'avoir le choix. On parle simplement d'information sur le prix.
Oui, parce que là, il y avait des occasions, justement, qui arrivaient. Des lois qui sont en train d'être faites à propos de consommation. On avait l'occasion d'avoir, justement, des distinctions sur les prix, des possibilités d'informer les consommateurs. Benoît Hamon a retiré l'essentiel de ces possibilités-là. C'est assez rageant. Donc je pense qu'on en reparlera parce que c'est des sujets qui vont revenir régulièrement et que c'est un des combats qu'on mène depuis longtemps.
Informaticnews.fr, état des lieux des besoins en compétences open source, un article de la rédaction.
Un assez conséquent article.
Reprend une étude effectivement sur les besoins des entreprises sur les compétences en logiciel libre.
Donc moi je vous propose d'aller jeter un œil parce qu'il est conséquent, il y a beaucoup d'informations et ce que j'apprécie c'est qu'il montre qu'il y a des besoins et des besoins d'éducation mais aussi des besoins d'entreprise. Donc on peut se former à des logiciels libres, à de l'open source et on peut trouver du boulot. C'est une notion économique de trouver là où on peut être utile. Donc il y a des grosses choses qui ressortent de cela.
Alors on rappelle qu'aujourd'hui les entreprises du libre font à peu près 6% du marché des services en informatique. Alors, on va dire que c'est pas beaucoup.
Mais c'est en pleine croissance.
Voilà, ça croît beaucoup beaucoup plus vite que le reste. Et aujourd'hui il y en a partout. Hein. C'est des choses qu'on a évoquées dans la revue de presse assez fréquemment. 90% des entreprises aujourd'hui déploient plus ou moins du logiciel libre quelque part et l'utilisent dans tous leurs projets, même si c'est que partiellement. Donc ces compétences sont vraiment nécessaires et utiles.
Une des différences souvent, c'est que les décideurs eux-mêmes apprécient de plus en plus le libre. Ça leur apporte certaines caractéristiques. Petit détail, le commentaire de Jonathan Lelous, un des administrateurs de l'April.
Et on est partout.
Et oui, effectivement, qui reprend cette étude, qui graphique à l'appui, petit diagramme, démontre un petit peu tout cela, le met en avant. C'est aussi assez intéressant, allez jeter un œil.
Le Figaro.fr, pourquoi le Bitcoin fait grincer des dents? Un article de Guillaume Erard.
On remarquera le Figaro, alors oui, c'est important, j'aime bien les mettre un petit peu dans la revue de presse parce que c'est pas facile. Le Bitcoin, généralement, on évite le sujet parce que certes, c'est du logiciel libre, mais ça ne parle pas de logiciel libre en général. Mais là, pourtant, je me suis dit, c'était assez intéressant.
Ça commence à faire énormément de bruit, puisque là, les gens commencent à s'apercevoir que ça s'échange de plus en plus et que le Bitcoin prend énormément de valeur. C'est un truc qui progresse à grande, grande vitesse.
Il n'y a pas que les gens qui s'en aperçoivent, il y a des banques et des états entiers, en commençant, je crois que c'est la banque de Chine qui a tiré en premier, qui rend quasiment illégal son usage.
Oui, pas tout à fait, mais quelque chose comme ça. La Banque de France a dit « ne mettez pas les doigts là-dedans, c'est vraiment n'importe quoi ». Alors l'article dit en substance que d'un côté, il y aurait les banques qui sont contre ça, puisque c'est une monnaie qui s'échange sans passer par l'intermédiaire. Donc
c'est
sans
du pire tout pire.
Tout à fait. Donc ça leur déplaît très fortement, ce qu'on peut comprendre. Et les banques disent « mais ce truc est absolument pas sûr, certains disent qu'il faut laisser le change, etc., se stabiliser ». Et pour moi, ce qui manque dans cet article, c'est que ça parle assez peu de cette monnaie qui est déflationniste. Et c'est évoqué dans les commentaires, qui sont plutôt pas mal. Il y a des fois des articles où les commentaires sont vraiment assez nuls, mais là, les commentaires sont plutôt de bonne qualité. Et ça, à mon sens, c'est vraiment le point vraiment problématique avec le Bitcoin, c'est ce côté déflationniste.
On est assez d'accord là-dessus. Moi, ce que j'apprécie malgré tout, c'est le fait que les institutions centrales, qui centralisent tout, les échanges financiers, voient d'un mauvais œil une monnaie décentralisée par essence, qui certes a plein de défauts, vont se révéler avec le temps certainement, mais le voir les institutions qui réagissent de cette manière, assez forte, je trouve ça assez fun.
ZDNet, article 13 LPM, Vanclier, deux jours affligeants du Parlement et du gouvernement, un article de Thierry Noisette. C'est plus une tribune qu'un article d'ailleurs.
Oui, qui reprend donc tout ce qu'on a dit sur la Vanclier, mais qui met en avant cela l'article 13 de la LPM. Qui
la est loi un article, de programmation militaire.
Voilà, qui est un article qui fait vraiment mal, mal au cœur, et dont on a discuté pas mal, et je sais
voilà,
que toi, tu es assez au courant.
Certains appellent le prisme à la française, donc...
Ou mieux même, parce qu'il semblerait que ça donnerait encore plus de pouvoir.
Oui, alors... Bon après, je connais pas le détail à la fois des trucs juridiques qu'il y a derrière Prism aux États-Unis. Je sais que les citoyens américains ont un minimum de protection. Citoyens étrangers, enfin des autres pays, n'en ont absolument aucune. Mais bon, peu importe. Après ça, faut voir dans le détail. L'idée, c'est que ce texte est extrêmement flou. Les critères pour pouvoir être surveillé sont assez larges. Et les moyens qui peuvent être mis en œuvre sont également assez flous. Donc c'est très embêtant. Et donc là, Thierry Noisette semble très énervé là-dessus.
Oui, tire un boulet rouge.
Ouais, et donc il montre que ça change pas grand-chose. Un des trucs qui est évoqué, je crois, dans cet article-là, c'est une citation de député UMP qui, concernant cet article 13, dit mais si on avait fait ça, on se serait fait traiter de fasciste par les députés du Parti socialiste. Je pense que c'est très probable. Et bon, voilà, c'est tout ça n'est pas très reluisant. Créanum, l'architecture open source avec Pepper Houses, un article de Louis Adam.
Et oui, encore un enfant du libre en général, mais là, dans l'architecture, un domaine où on ne pourrait pas forcément imaginer ce genre de choses, c'est-à-dire du libre où on partage les plans des maisons qu'on voudrait construire.
Donc des architectes qui partagent des plans, qui les donnent à télécharger, et après ça, il faut quand même monter la maison, hein, il va falloir porter des parpaings.
Petit détail.
Voilà. Mais ce qui est intéressant, ce sont des architectes qui normalement travaillent à la commande pour des gens qui ont vachement d'argent et qui font des belles maisons d'architectes, etc. C'est pas du pavillon standard à côté de la zone industrielle. Donc voilà, c'est lancer ces trucs-là. Comment ils gagnent de l'argent avec, c'est une question intéressante.
Alors moi, je connais la réponse. L'idée, c'est qu'effectivement, ils partagent les plans, mais la construction elle-même, même, c'est pas une mince affaire et elle requiert un architecte. Donc qui de mieux que celui qui a imaginé ses plans à l'origine ou qui a travaillé dessus. La possibilité après, c'est de partager ses plans et de se faire connaître par l'intermédiaire de genre de distribution. Donc c'est quelque chose qui est assez positif pour eux. Et puis globalement, ils veulent permettre à beaucoup plus de citoyens, de consommateurs, d'acheteurs de participer eux-mêmes, de contribuer, de voir un peu ce qui se passe. Contrairement à l'habitude où on va voir un architecte et aller savoir ce qu'il a dans son book, dans son portfolio comme possibilité, ce sera forcément limité. Là, vous ouvrez tout la capacité de tous les architectes du monde entier. Potentiellement, on peut aller piocher en théorie sur des plans qui seraient faits par des Finlandais, des Chinois, des Australiens. Il n'y a pas de limite.
Et l'article cite également un autre projet qui s'appelle WikiHouse. Bon, il le cite très rapidement. Je suis allé voir. C'est plus dans la logique du do it yourself, hein, comment construire sa maison. Et c'est assez intéressant également de voir que ça essaime de ce côté-là. Donc Lionel, avant de conclure, tu vas nous parler de notre campagne candidat.fr où il y a une sorte d'appel que tout le monde peut signer.
Oui, l'idée c'est que au moment des élections municipales qui s'approchent, on va essayer d'aller sensibiliser nos futurs élus, donc les gens qui sont candidats actuellement.
Pour leur faire signer le pacte du logiciel libre.
Voilà, pour les encourager à signer un petit pacte très simple, qui est un pacte où ils disent qu'ils prennent connaissance du logiciel libre et qu'ils s'engagent à ne pas prendre de décision contre le logiciel libre. Mais on s'est dit que cette campagne, c'était aussi le moment de recueillir l'avis d'un certain nombre de gens qui utilisent le logiciel libre par eux-mêmes.
Voilà, donc ça donne du poids aussi quand on va voir les élus. On a dit, on vous demande de signer ça, mais regardez, on a du monde derrière nous.
Tout à fait. Nous-mêmes, on l'a déjà signé, hein. L'idée, c'est de dire que nous-mêmes, on l'utilise, le logiciel libre. Et puis, c'est un moyen d'encourager les gens aussi à participer, même s'ils ne font pas la démarche d'aller voir leurs élus.
On peut signer à titre individuel ou collectif, hein, comme une organisation. Est-ce que tu peux nous lire cette déclaration d'utilisation de logiciel libre ?
Bien sûr. Donc, la déclaration, c'est « Je déclare utiliser des logiciels libres et souhaite qu'à l'avenir, petit 1, les droits des développeurs et des utilisateurs de logiciels libres soient pris en compte par le législateur, et petit 2, l'utilisation, la production et la diffusion de logiciels libres soient encouragés par les pouvoirs publics. » Voilà, donc c'est une déclaration très simple, que tout le monde peut comprendre. On n'a pas besoin d'être informaticien pour s'engager à ça, et je pense que c'est un moyen, toujours, de pression sur nos élus, pour essayer de les encourager à changer les choses. Comme on a vu dans la revue de presse, il y a beaucoup de travail à faire.
Voilà. Bien, Lionel, merci beaucoup. Manu aussi, merci.
Voilà, à la semaine prochaine.
Salut tout le monde.
Salut.